bonsoir et bienvenue sur Fréquence Protestante. Vous êtes bien au 01 45 72 6000. Et je voudrais ce soir, pour clôturer cette semaine sur la question des droits de l'homme, commencer par une citation de l'abbé Grégoire, un extrait de son mémoire en faveur des gens de couleur ou sans mêlée de Saint-Domingue, Paris, 1789. Les dénominations gens de couleur, sans mêlée, sont insignifiantes, puisqu'elles peuvent également s'appliquer aux blancs libres, aux nègres esclaves, etc. Mais dans nos îles, l'usage a restreint l'acception de ces mots à la classe intermédiaire, dont les individus blancs et noirs sont les souches. Fin de citation. Alors pourquoi cette citation est-elle intéressante? Parce qu'elle nous dit deux choses. La première est très heureuse et très positive. La dénomination de gens de couleur ou la dénomination de sans-mêlée, c'est un indifférent. C'est peut-être aussi un idéal. L'histoire nous a appris que les dénominations de couleur, hélas, ont leur importance de couleur, de religion, d'ethnie. Mais il n'empêche que l'abbé Grégoire a pu faire ce constat optimiste. Par ailleurs, dans la même citation, il se livre également à un constat historique, celui de l'usage de la langue, qui donc considère qu'en fait, il y a deux souches, la souche blanche, la souche noire, et il y a une classe intermédiaire, donc qui dit intermédiaire dit bien hiérarchie, ne serait-ce déjà qu'entre les deux souches, cette classe intermédiaire, la classe des sans-mêlés. Si bien qu'on est forcé de se dire que dans la même citation, il y a à la fois peut-être l'expression d'un idéal et l'expression d'une réalité bien moins reluisante. Or, cette question finalement coloniale, la question de la population, d'une partie de la population de Saint-Domingue assimilée à des sans-mêlés, et d'une actualité brûlante sous la Révolution française, puisqu'ils vont se battre justement pour obtenir la reconnaissance d'une égalité juridique avec les Blancs. Et cette égalité va être obtenue en 1792, elle va être perdue très peu de temps après, autant dire que même la Révolution française et même la Déclaration des droits de l'homme se trouvent d'une certaine mesure abolies. Pour nous parler de cette question, de cet épisode très méconnu finalement de notre histoire, pas si lointaine. J'ai le plaisir de recevoir ici Florence Gauthier. Florence Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes historienne. Vous êtes historienne spécialisée dans toute l'histoire du XVIIIe, dans toute l'histoire de la Révolution française, et en particulier sur cette question justement coloniale. Je citerai le très beau titre « L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur » aux éditions du CNRS, qui est une production à laquelle vous êtes attachée justement, dans laquelle pardon, vous êtes attachée à tout ce qui s'est passé finalement sur ces gens de couleur ou ces sans-mêlés.
Oui, j'ai essayé de commencer, parce que vous me dites, j'ai fait tout, non, oh là là, non. J'ai simplement commencé un petit peu à approcher cette histoire compliquée, très occultée, difficile à comprendre, hein, vous allez voir, de cette révolution de Saint-Domingue, qui va se passer en étapes différentes, compliquées, terribles parfois. Et elle va être provoquée par une situation tout à fait particulière de la colonie française de Saint-Domingue, qui est à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la perle des Antilles, c'est-à-dire le premier producteur de sucre. Ça veut dire, concrètement, que il n'y a pas un nombre très important de colons très riches dans le sucre, mais ce qui fait l'intérêt de cette colonie, de cette Amérique sucrière, de cette Amérique esclave, ce qui fait son intérêt donc, c'est que l'on peut faire fortune rapidement, fortune, hein, c'est pas s'enrichir simplement, c'est faire fortune, c'est-à-dire ramasser beaucoup d'argent et pouvoir abandonner tout cela et se retirer dans les métropoles en général. C'est ce que font les grands sucriers, hein, c'est d'accumuler des fortunes considérables. Bien, et il y a ce conflit très particulier qui va se développer dans les colonies françaises. Alors, il ne faut pas généraliser à toutes les colonies européennes en Amérique. Je rappelle que le continent américain est depuis 1492 le continent livré aux appétits coloniaux des Européens. Alors, il y a des variantes, hein, dans le colonialisme, bien évidemment. À Saint-Domingue, nous sommes dans une histoire d'un colonialisme très particulier, très précis, qui est celui de la plantation sucrière esclavagiste.
Oui, et donc des plantations avec enfin, d'immenses plantations avec des esclaves extrêmement maltraités.
Extrêmement maltraités, le mot est faible. Enfin, je veux dire, c'est une condition effroyable, étant donné que nous savons que la durée de vie d'un captif, puisqu'il s'agit d'un système d'esclavage où ce sont des hommes libres qui ont été capturés en Afrique et déportés en Amérique pour être mis en esclavage sur des plantations et qui font un travail essentiellement dans l'agriculture, c'est-à-dire les travaux difficiles de la canne à sucre. Hein. Et leur durée de vie, comme on le sait, est en moyenne de 10 ans. Alors, je sais pas, c'est pas aujourd'hui que nous allons parler de cette question de l'esclavage, mais enfin, il faut bien comprendre que si la durée de vie de personnes qui arrivent en pleine force de l'âge, hein, et qui sont déjà choisies, triées, sélectionnées au départ, est si faible, c'est qu'il y a quelque chose qui va les rendre fragiles et les faire mourir
comme
rapidement.
Vous le dites pudiquement. Voilà.
Que je dis pudiquement. Mais enfin, bon, voilà. Comme nous ne sommes pas là pour parler de l'esclavage, de la plantation esclavagiste, mais d'autres aspects de cette histoire terrible, je reprends cette question particulière de l'apparition du préjugé de couleur. C'est comme ça qu'on l'appelait au XVIIIe siècle dans les colonies françaises. Alors, il y a une histoire spécifique là aussi. Hein. Je ne peux pas le généraliser étant donné que je ne connais pas du tout la situation dans toutes les colonies européennes d'Amérique. Et il faudrait faire un travail intéressant à faire d'histoire comparée des comportements de toutes ces classes dominantes. Mais bon, voilà, aujourd'hui on se limitera à cela, je précise mon sujet. Alors, le préjugé de couleur est apparu tardivement dans les colonies françaises d'Amérique, et en particulier la colonie principale qui est Saint-Domingue. Pourquoi ? Eh bien parce que le comportement des colons français, je parle ici des grands colons riches de la classe dominante, le peuple, on le sait, c'est toujours métissé partout. La classe dominante, c'est une autre histoire. Et ici, nous avons affaire à l'histoire d'une classe dominante qui se mélange. Et qui se mélange sans problème.
Voilà, qui rend ça tellement particulier, cette colonie de Saint-Domingue.
Alors pourquoi, là aussi, il faudrait pousser les recherches plus avant sur comment on peut avoir une classe dominante. Alors, je peux rappeler rapidement comme cela, pour qu'on comprenne mieux, que les colons français sont choisis et aidés par le roi de France. C'est le roi de France qui est propriétaire des colonies d'Amérique. Hein. Les systèmes varient, c'est pas toujours la même chose. Ici, c'est le roi de France qui distribue les terres à ses amis, si vous voulez. Hein, donc, ses amis, c'est qui ? Ce sont les cadets de familles nobles et les cadets de familles riches et qui ne sont pas forcément nobles et qui vont aller là-bas tenter l'aventure pour s'enrichir, hein, pour faire fortune. Et donc, leur comportement est particulier et ils vont, dès le début, ils arrivent en la fin du XVIIe siècle, ils vont épouser des femmes africaines. Alors, où les ont-ils trouvé ces femmes africaines ? Oui. Parmi les captifs qu'on a conduit d'Afrique en Amérique.
Donc, ils les épousent avant qu'elles ne soient devenues des esclaves. Elles sont déjà des esclaves.
Sont des captives, quoi, qui arrivent sur le marché d'esclaves. C'est comme ça que les choses se passent. Hein.
Mais si vous me permettez, c'est quand même très étonnant parce que d'un côté, on va avoir à Saint-Domingue l'exploitation esclavagiste la plus noire, si vous me permettez ce très mauvais jeu de mots, involontaire. Et de l'autre côté, une absence totale de racisme, puisque ces cadets de famille épousent réellement, ça n'est pas ce qu'on appellerait du concubinage.
Non.
Je pense que ça existait aussi.
Bien sûr.
Mais ils épousent les femmes africaines.
Ce sont des mariages légitimes et ça va nous donner une humanité métissée immédiatement dans la classe dominante. C'est ça qui est la caractéristique
c'est ça qui est très intéressant,
qui est tout à fait intéressante. Alors sur cette question de l'esclavage d'un côté et des mariages entre les couleurs, eh bien, on peut constater qu'il y a des pays dans lesquels les maîtres d'esclaves sont de la même couleur que leurs esclaves. Vous regardez l'Empire romain, c'était bien ainsi, en gros, que ça pouvait se passer. Bien sûr, il y avait des couleurs variées, mais
de guerre deviennent esclaves.
Voilà, alors je crois qu'il y a plutôt une spécificité de l'histoire de l'esclavage en Amérique, sur le continent. Quand je dis Amérique, c'est le continent tout entier, naturellement. C'est que nous avons affaire à un déplacement de captifs africains. Il se trouve qu'il y a, dès le départ, dans ce choix qui a été fait, il n'a pas été fait tout de suite, hein, il y a eu des expériences complexes. Bref, en tout cas, c'est cela qui a finalement été décidé. Les captifs venaient d'Afrique et il y avait une différence de couleur. Mais au départ, cet exemple des colonies françaises nous montre que la classe dominante est indifférente à la couleur, comme on disait à l'époque, indifférente à la couleur, et c'est intéressant de le constater. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apprend, ceci? C'est pas simplement ce fait-là qu'on pouvait se marier entre couleurs. C'est, ça nous apprend que la classe dominante française est métissée à cette époque, depuis le XVIIe siècle.
Excusez-moi, ces cadets de famille donc, qui font souche avec des Africaines, leurs enfants vont revenir après en métropole.
Leurs enfants vont parfois revenir, parfois rester sur place et donner une classe dominante métissée qui va être formée de personnes qui sont évidemment nées libres, comme on dit dans la langue de l'esclavage, ingénues, c'est ça que ça veut dire, hein, nées libres. C'est, heureusement qu'on a oublié ce genre de vocabulaire, c'est pour ça que je le rappelle, parce que c'est pas évident d'avoir ça en tête. Et qui sont des héritiers parfaitement légitimes, riches, et qui sont à la tête de la colonie. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant de le savoir. Et le roi de France les a toujours protégés. Mmh. Une partie d'entre eux est revenue parce qu'ils allaient faire leurs études dans le royaume de France. Et une partie d'entre eux est restée sur place. On a des exemples précis de familles qui ont envoyé leurs enfants et une partie de leurs enfants sont restés en France et se sont mariés dans la classe dominante, soit noble, soit riche. L'aristocratie de la richesse ou l'aristocratie du sang, hein, pour parler de la langue du XVIIIe siècle. Hein. Bon, donc il est intéressant aussi donc de savoir que ces enfants se sont mêlés aux classes dominantes françaises sans aucun problème. Bien au contraire, on les a trouvés tout à fait agréables. Mmh. Et fortunés.
Oui, ce qui ajoutait certainement à leur charme. D'ailleurs.
Certainement.
Et alors, quand est apparu le préjugé de couleur? Il me semble que c'est quelque chose qu'on va voir apparaître même dans des textes au XVIIIe siècle.
Tout à fait. Il y a eu, au début, dans les années 1720, il y a eu une apparition d'un vocabulaire nouveau qui s'introduit à Saint-Domingue. Alors moi, je connais bien l'exemple de Saint-Domingue parce qu'il y a une abondance de sources à cause d'un personnage qui a fait cette histoire du préjugé de couleur et qui est justement un de ces colons métissés qui porte le nom de Julien Raymond et qui a laissé énormément de sources. Et c'est grâce à lui qu'on peut rentrer dans l'intimité de cette histoire parce qu'il a laissé aussi sa correspondance avec ses amis et il y a beaucoup de choses sont exprimées. Alors il fait cet historique, lui il est victime de ce préjugé de couleur, il est né en 1744 pour le situer. Mmh. Il est allé faire ses études en France, à Toulouse, dans la région de Toulouse, il est passé par Bordeaux, Toulouse, et puis il est revenu ensuite à Saint-Domingue et il a constaté dans les années 60 que le projet de couleur avait fait beaucoup de progrès. Il s'est intéressé à cette question, il a commencé à étudier toute la législation de la colonie et il leur dit qu'il a vu apparaître un vocabulaire nouveau qui fait des distinctions hiérarchisées selon la couleur. Il y a trois couleurs qui apparaissent, les blancs, les sans mêlés comme on les appelle, et puis les esclaves, qu'on appelle également les nègres dans la langue esclavagiste hein, de cette époque-là. Et il y a trois niveaux donc qui vont apparaître dans la langue de la législation à partir des années 1720. Et puis, il se trouve que dans les années 1750-60, il y a de nouveaux colons venus de France qui ont espéré faire fortune à Saint-Domingue et qui se sont rendus compte que les bonnes places, c'est-à-dire les places des plantations sucrières, pour parler de façon rapide, étaient déjà prises. Et qu'ils ne pouvaient plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des îles qui sont très montagneuses et que pour faire du sucre, il faut des plaines. Or, les plaines étaient généralement largement défrichées et il n'y avait plus de place pour faire de nouvelles plantations sucrières. Très déçus de cette situation, ils ont eu cette idée terrible de discriminer la partie colorée de la classe dominante dans cette colonie française, dans les colonies françaises. Enfin, c'est surtout Saint-Domingue qui connaît cette politique nouvelle et politique ségrégationniste. Pour employer un mot que nous connaissons, un mot moderne, un mot récent, je ne le trouve pas au XVIIIe siècle, hein, c'est pour ça que je le précise. Une politique ségrégationniste à l'encontre de ces colons riches et métissés. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que vous avez des interdits professionnels et ils vont être exclus des bonnes places de la colonie progressivement.
Interdits professionnels.
Voilà,
parce que j'avais demandé qu'est-ce qu'ils ont eu comme support. Donc il y a eu des expédients juridiques qui ont été mis en place.
Oui. Or, la colonie fonctionnait, enfin, l'ordre colonial était quand même maintenu par des milices paroissiales, comme on les appelait à l'époque, et ces milices paroissiales étaient formées des jeunes colons qui dirigeaient eux-mêmes leur plantation et la milice pour organiser la défense, le maintien de l'ordre esclavagiste, hein, qui est toujours en danger, parce qu'il y a une... En danger pour les colons, hein. Il y a une masse énorme d'esclaves et par conséquent, les révoltes d'esclaves peuvent être... peuvent se produire d'un instant à l'autre. Elles sont quasiment permanentes, je veux dire. Il y a une possibilité de révolte permanente. Donc, l'ordre militarisé de la colonie était très fort. Et ces milices paroissiales sont formées de ces, des enfants des colons, quoi. Ou des colons eux-mêmes, lorsqu'ils sont en état de porter des armes et de se battre, hein. Et par conséquent, à partir du moment où on va se mettre à épurer les milices paroissiales et on va commencer par interdire les offices supérieurs aux colons métissés, il va y avoir des problèmes de plus en plus, enfin, des tensions de plus en plus fortes. C'est important de comprendre. Et dans les années 1760-70, il y a vraiment des tensions telles qu'une partie des colons métissés, même nobles, hein, qui ne se sentent plus protégés dans la colonie, et choisissent de rentrer dans le royaume de France parce qu'ils savent qu'ils y seront protégés. Et c'est important de comprendre ce genre de comportement, quoi. Ça vous indique quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon, voilà ce que ça peut nous apprendre, nous. À nous qui faisons de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une époque où il y avait une indifférence à la couleur, même dans une société esclavagiste, hein, une indifférence à la couleur, et que la classe dominante française a été aussi largement métissée. C'est important de le dire, de savoir ces choses-là, même si après on n'en parle plus, puisque quelque chose s'est produit de grave qui fait qu'on ne va plus parler de cela.
Ça, c'est merveilleux parce que c'est dramatique. On attend que vous nous racontiez pourquoi. Mais alors, je dirais, d'une certaine mesure, c'est rassurant. Effectivement, on a eu une classe dominante qui était métissée. On a eu des mariages légitimes, blancs, noirs, etc. là-bas. Et puis, en même temps, c'est absolument terrifiant parce que là, on est avec l'esclavage dans l'exploitation la plus pure de l'homme par l'homme. Peu importe sa couleur. De toute manière, ce qui importe, c'est finalement... la force, ce qui revient à la force, si peu nombreux qu'on soit ou pas. Et finalement, ce qui se passe quand on trouve des interdits professionnels à mettre à ceux qui ont accaparé les terres avant vous, hein, pour s'emparer des terres, chacun son tour en quelque sorte, c'est toujours le règne de la force qui est... Quel que soit le langage qu'elle parle, que ce soit.
Bien sûr, c'est le langage de la force et c'est le langage de. Par exemple, on retrouve cela dans les guerres de religion. Hein. Au XVIe siècle, les guerres de religion se sont produites en discriminant les gens sur, non point la couleur, mais sur la question de la religion. Dans les pays catholiques, les protestants ont été massacrés et l'inverse s'est produit. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus. Je veux dire, c'était dans les sens, dans les deux sens. Absolument. Et pour des raisons qui sont du même ordre également. Enfin, pas toutes les raisons, hein. Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans l'analyse comparée de la chose, mais où les biens des vaincus étaient pris par les vainqueurs et redistribués quand même. C'est tout à fait important, ça.
Et alors justement, quand ces membres de la noblesse vont venir en France pour se sentir plus protégés, parce que là, il n'y a pas encore tous ces interdits, ils vont à nouveau livrer un combat, mais ce combat, ils vont le livrer cette fois-ci sur le plan politique.
Oui, voilà. Et alors, c'est à ce moment-là que va se préciser la crise politique de la société, de la classe dominante de la colonie de Saint-Domingue, lorsque, et on commence à le comprendre, évidemment, lorsque les intérêts de la colonie ne sont plus unifiés, ils sont divisés. Et vous avez un parti ségrégationniste qui va se créer à Saint-Domingue, pour essayer de se débarrasser de cette partie de la classe dominante qui est métissée, avec tout le vocabulaire d'insultes que cela suppose, hein, on y reviendra certainement. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cet éclatement de la classe dominante, la plus puissante, véritablement, qui est la clé du colonialisme français en Amérique, c'est l'éclatement de cette classe, la division dans un premier temps de cette classe dominante va provoquer une situation très favorable à une insurrection d'esclaves qui surveillent les choses, évidemment, qui ont très bien compris tout ce qui se passait et qui ont compris qu'au bout d'un certain moment, que leur temps était venu.
Et ils vont réclamer leur indépendance.
Et qui vont rentrer dans... Oh, l'indépendance, pas tout de suite, mais enfin, qui vont rentrer dans l'histoire, qui vont véritablement devenir l'acteur principal de la révolution de Saint-Domingue. Mais en alliance avec une partie de ces gens de couleur qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien faire sur place avec les colons maintenant qui s'appellent blancs. Puisque vous avez une division des colons, et le mot sans mêler crée au même moment, en même temps, le mot blanc. Le blanc est un rapport social, blanc-noir, blanc sans mêler, ce sont des rapports sociaux extrêmement précis. Quand on dit blanc, noir, on le dit de la façon dont la citation de Grégoire le disait précédemment. Ça peut être un constat, et puis ça ne va pas plus loin. Mais à partir du moment où on l'utilise comme un moyen de ségrégation, ça devient une arme redoutable. Et c'est là que les choses changent complètement de signification, bien sûr.
Et alors des termes, vous parliez de la langue, du vocabulaire, des termes comme carteron. C'est à ce moment-là qu'on commence à les employer.
Voilà, alors il y avait déjà des pratiques dans d'autres colonies espagnoles, anglaises, etc., qui pratiquaient le préjugé de couleur. Et il est introduit lentement en France, et puis il y a plusieurs théoriciens qui vont, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, développer des théories ségrégationnistes. Alors, il y en a beaucoup, bien sûr, à Saint-Domingue, et en particulier, il y a Médéric Moreau de Saint-Méry, qui est un juriste, qui vient de la Martinique, et qui s'est installé ensuite à Saint-Domingue, au Cap. Et comme juriste, il connaît extrêmement bien toute la question des lois, etc. Et lui, il est en train de réfléchir, de penser au système juridique qui devrait remplacer le système qui existait sous l'Ancien Régime et qui était indifférent à la couleur. Et c'est lui qui va commencer à prendre, à décalquer, si vous voulez, sur l'existant dans d'autres colonies, espagnoles entre autres, tout ce vocabulaire de hiérarchisation des couleurs. Alors pourquoi est-ce que c'est si raffiné? C'est précisément entre le blanc et le noir, le maître blanc et l'esclave noir, que vont apparaître toutes ces catégories en nombre extraordinaire, étant donné que Moreau de Saint-Méry se flattait lui-même de reconnaître à l'œil nu jusqu'à 64 degrés de différence de mélange, vous voyez, de gens.
Excusez-moi.
C'est terrible parce que c'est quelque chose en même temps d'extrêmement angoissant, d'effrayant de voir quelqu'un qui ose vous dire ça. Alors quand vous apprenez dans les sources, de le théoriser, et que vous apprenez ensuite dans les sources qu'il est lui-même métissé, c'est là on commence à prendre conscience qu'il y a des formes de maladies mentales spécifiques au système colonialiste, ségrégationniste, esclavagiste. Il y a quelque chose d'intéressant ici à interroger, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le remarque là.
C'est le signal. Le métis qui, comme chacun sait, a toujours du mal à trouver sa place dans l'histoire, est obligé de choisir son camp. En tout cas, avec Moreau de Saint-Méry.
Voilà, là, on a un bon exemple. Et puis, la Société des citoyens de couleur, en face, qui choisit son camp également et qui va choisir le camp de l'unité du genre humain, de la défense des droits de l'humanité, de l'alliance avec les esclaves. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va être l'avenir, le devenir de la Révolution de Saint-Domingue qui est tout à fait riche et intéressant, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Julien Raymond et ses amis, ils vont essayer dans un premier temps, de résister aux préjugés de couleur sur place à Saint-Domingue, mais ils vont échouer. Et le parti ségrégationniste va prendre le pouvoir dans la période 1789-90, à la faveur de la Révolution française. Mais Julien Raymond, pour X raisons, va se retrouver en France. Et il va lutter avec les révolutionnaires français, apprendre beaucoup de choses d'eux. Et c'est lui qui a éclairé Grégoire. Il est devenu un grand ami de Cournant et de Grégoire, en particulier, et d'autres personnes du club des Jacobins, comme on dit, de la Société des Amis de la Constitution. Et c'est lui qui va leur apprendre, c'est qui va leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'ils ne connaissent pas très très bien,
c'était
forcément.
C'était loin, finalement.
Bah juste, c'était assez loin.
C'était loin, c'était juste une source de profil, le sucre. Jusqu'à...
Voilà. Et bon, tout le monde n'était pas forcé d'être très au courant de ce qui s'y passait, puisque c'était assez caché aussi. Enfin, ceux qui étaient mêlés au commerce savaient très bien ce qui se passait, mais ordinairement, c'était pas évident de comprendre ce que ça pouvait être. Bon, bref, c'est Julien Raymond et ses amis de la Société des citoyens de couleur, qui va être créée au début de la Révolution, au mois d'août 1789, qui vont éclairer les révolutionnaires français.
Donc, on a d'un côté Moreau de Saint-Méry, qui est le premier théoricien ségrégationniste français, d'une certaine façon.
De Saint-Domingue, voilà.
Qui est assez influent, même s'il est à Saint-Domingue, j'imagine. Ses écrits sont... Puisque vous dites pour se défendre, Julien Raymond, excusez-moi, donc vient en France, la Société des gens de couleur, et donc il y a un combat, ce combat politique est mené, il s'agit d'informer, et puis il s'agit vraiment de faire en sorte que cette amitié du genre humain essaye de vivre un peu.
Voilà, et ce que la Révolution française a permis à Julien Raymond et à la Société des citoyens de couleur d'approfondir, c'est cette notion de l'unité du genre humain qui est extrêmement intéressante et qui nous conduit à la question des droits de l'homme et du droit naturel moderne par opposition au droit naturel antique, où l'humanité est divisée, hiérarchisée. Et cette question du droit naturel moderne, elle est vraiment très très intéressante. Alors, je crois que c'est le moment d'en parler.
Oui, tout à fait. Nous allons justement faire une pause musicale et on va revenir justement sur la partie beaucoup plus joyeuse de cette histoire. Rebonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Protestante, 01 45 72 6000, et j'ai toujours le plaisir de recevoir Florence Gauthier, historienne, qui nous parle de la société des gens de couleur, donc des gens libres de couleur, comme ils souhaitaient l'être en quelque sorte, et vous allez pouvoir nous en parler, et du combat qu'ils ont mené au moment de la Révolution française, combat pour les droits de l'homme et pour le droit naturel, ce qu'on a totalement oublié à l'heure actuelle. Donc je vous redonne la parole.
Oui, il s'agit de la Société des citoyens de couleur. C'est une façon de s'appeler qui est tout à fait remarquable et vraiment géniale, je trouve. Pourquoi ? Parce que on vient de dire que à Saint-Domingue, le parti ségrégationniste a inventé tout ce vocabulaire ségrégationniste qui est formé de mots qui sont des insultes. Il ne faut pas s'y tromper. Ce sont des insultes quand on traite quelqu'un de mulâtre, de carteron, etc. Ce sont des insultes. Et eux, ils ne connaissent que cela. Ils ne connaissent que ce vocabulaire-là. Quand ils arrivent en France, ils découvrent qu'on peut parler autrement. Ah oui. Et il y a quelque chose ici d'extrêmement fort parce qu'ils vont inventer la langue de la liberté, la langue de l'unité du genre humain, la langue de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, version colonie d'Amérique, esclavagiste, ségrégationniste, etc. Donc ici, il se passe quelque chose de très fort. Alors, comment ça a été possible ? Eh bien, évidemment, c'est toujours difficile de dire comment une chose aussi étonnante a pu se produire. J'ai des éléments de réponse. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a été votée le 26 août 1789, comme on le sait, et qui est une déclaration. Une déclaration, c'est un guide, une boussole pour l'action, mais c'est tout. Il faut encore que les gens s'en emparent et lui donnent une traduction pratique. Concrète, bien évidemment. Alors, comment faire ? Julien Raymond se trouve en France et il rencontre des révolutionnaires qui, eux aussi, essayent de mettre en pratique cette question des droits de l'homme et du citoyen. Hein. Cette question de l'unité du genre humain est une chose qui est tout à fait nouvelle dans la théorie politique. Elle vient d'un courant de pensée qui est sans doute malheureusement oublié de nos jours, occulté, oublié, ignoré. Quel malheur, c'est ce qu'on lit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, hein, les droits ignorés, méprisés, etc. Et ils en sont parfaitement conscients, déjà eux. Alors nous aussi, encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors c'est une vieille histoire que le droit naturel, je ne commencerai pas au début, rassurez-vous, parce qu'on en aura pour plusieurs jours.
On fera une nouvelle émission.
Voilà. Mais je commence avec la découverte de l'Amérique 1492. Hein. Il se passe qu'un événement considérable s'est produit, c'est la conquête de l'Amérique par quelques des poignées d'Européens, comme on le sait, et puis une série de crimes qui vont se perpétuer, des pillages, des assassinats, des massacres, des mises en captivité des Indiens, etc. Et puis la déportation des captifs africains vers l'Amérique. Une série de crimes contre les droits de l'humanité. Et c'est comme ça qu'ils sont appelés, dès le XVIe siècle, par une école qui va être l'école de Salamanque ou au Portugal aussi l'école de Coimbra. Mmh. Et qui vont toutes les deux, mais on connaît mieux l'école de Salamanque, mais enfin, c'est pas la peine d'oublier l'autre, qui a essayé de répondre, de donner une réponse indignée et constructive devant ces violations des droits qu'il considérait comme les droits de l'humanité. Et c'est comme cela qu'il parle. Cette langue apparaît à ce moment-là et c'est très intéressant.
Et c'est merveilleux en même temps de se dire qu'il y a quand même eu des gens pour dénoncer ce qui se passait et avoir cette notion d'une humanité globale.
Alors quelques noms pour qu'on les situe. Bartolomé de Las Casas, qui est un colon esclavagiste au début et puis qui va prendre conscience d'une réalité et changer. Et Vittoria, qui est un des grands théoriciens de l'école de Salamanque, et il y en a bien d'autres. Bon, on s'arrête là, mais je voudrais simplement indiquer que l'Amérique, la découverte de l'Amérique et les crimes qui ont été commis en Amérique ont été appelés par Bartolomé de Las Casas la destruction des Indes. Hein, il l'a vraiment bien caractérisé. Et c'est de là que sont nés les droits de l'homme fondés sur le droit naturel moderne. Les droits de l'homme et du citoyen moderne, de la période 16e-18e siècle. Nous sommes avec Julien Raymond, la Société Citoyenne Colère, avec des révolutionnaires qui en France essayent de donner du concret à ces notions. L'unité du genre humain les intéresse beaucoup. Il y a une longue histoire à ce sujet. Et les citoyennes couleur vont inventer leur propre nom, comme je le disais tout à l'heure. Citoyennes de couleur, eh ben, il faut le faire. On ne peut plus dire, quand on a entendu cette formule, que ce sont des gens qui veulent se cacher, qui veulent cacher leur couleur. Pas du tout. Ils en sont fiers et ils la proclament. Nous sommes des citoyens, des hommes et des citoyens de couleur. Et ils vont avoir, ils vont inventer toute la symbolique de la révolution de Saint-Domingue, de la révolution qui va devenir la révolution de l'égalité de l'épiderme et qui va commencer avec la révolution de Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti, hein, qui va se faire dans un processus de 1789 à 1804 et de façon extrêmement difficile, comme on le sait, et qui va avoir des prolongements qui ne sont toujours pas achevés, d'ailleurs, aujourd'hui. Cette société des citoyennes couleur va donc prendre de la force parce qu'elle est aussi en France et que la Révolution française lui permet d'en prendre. Et elle va réfléchir sur comment avancer une révolution des droits de l'homme, comment introduire les droits de l'homme sur le continent esclave qu'est l'Amérique à cette époque. C'est pas facile de faire cela, bien sûr. Et il va falloir que ces citoyens de couleur comprennent et passent par la prise de conscience qu'ils doivent s'allier avec les esclaves. Imaginez un petit peu, ce sont des maîtres d'esclaves aussi, qui sont opprimés par d'autres maîtres d'esclaves et qui comprennent petit à petit qu'il faut qu'ils se retirent de ce système dans lequel ils sont nés et qu'ils s'allient avec les esclaves.
Ce qui représente un cheminement, cheminement intellectuel et humain extrêmement fort.
Extrêmement fort. Oui. Et c'est le même que Las Casas, dirais-je. Las Casas qui est colon. Esclavagiste d'Indien à ce moment-là, il a une encomienda, d'ailleurs à Saint-Domingue aussi, hein, c'est la même île, et qui va prendre conscience au bout de 12 ans de vie de maître esclavagiste que ça n'est plus possible de continuer comme ça. Il y a quelque chose là de très intéressant. Bon, et c'est ça qui va nouer, si vous voulez, cette situation extraordinaire qui a été la révolution de Saint-Domingue, Haïti, et qui est... qui révèle des choses formidables. Alors j'en étais à la symbolique révolutionnaire. Mmh. Comme l'humanité des Africains leur était refusée en Amérique, ils ont commencé par cela. Ils ont développé cette image de l'humanité des Africains. Et ils ont pris comme symbole vivant une femme esclave de Saint-Domingue qui était avec la cité citoyenne Colère et qui, à Paris, se promenait dans toutes les manifestations des différentes sociétés populaires de l'époque, dont la cité des citoyennes Colère. Elle était en tête de la manifestation. Et elle était représentée sous la forme classique que tout le monde connaît, de la Vierge Marie avec son bébé, hein, de n'importe quelle femme qui protège des enfants, si vous voulez. C'est une image formidable.
C'est très fort aussi. Voilà. À l'époque, on remplace la Vierge
exactement,
par une femme de couleur.
Par l'humanité, voilà. Et on l'appelle l'humanité des Africains. Alors c'est Jeanne Audot, et on dit qu'elle a 114 ans, et que, alors c'est peut-être pas exact qu'elle ait 114 ans, encore que je vois pas pourquoi ils auraient tellement menti, mais enfin, peu importe. Bref, elle a 114 ans, elle est vieille et elle ne porte pas des enfants au sein parce qu'elle n'a plus de lait, c'est clair, mais elle les protège de ses bras et elle protège des enfants de couleur. Et elle représente l'humanité des Africains et elle est promenée dans toutes les manifestations à Paris. Je veux dire, ça prend un sens quand même extrêmement fort.
Il n'y a jamais de contre-manifestation, si j'imagine.
Des contre-manifestations de la contre-révolution, elle n'a pas osé remettre cela en France. Non. Le parti colonial tue, assassine, massacre dans les colonies, fait ce qu'on fait dans les colonies. Mais il n'ose pas le faire à Paris. Il aurait bien voulu se débarrasser de Julien Raymond, qui est un ennemi redoutable. Mais il n'a pas pu. Il lui a beaucoup nui. Hein. Il a quand même réussi à le mettre en prison, ça. Mais enfin bon, voilà. Et vous avez eu des fêtes comme ça pendant la Révolution, parce que la Révolution a progressé de 89 jusqu'à l'abolition de l'esclavage, en 93 à Saint-Domingue, en 94 par la Convention. Et en France, il y a eu des fêtes. Et il y a des choses extrêmement intéressantes sur le plan de l'unité du genre humain. Il y a des femmes françaises qui échangent leurs bébés avec des femmes de couleur qui se trouvent en France. Il y a quand même pas mal de gens de couleur en France. Pas mal, n'exagérons pas non plus, mais il y a pas mal de gens qui ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, qui se trouvaient dans les armées françaises et qui ont préféré retourner dans le royaume de France, dans l'armée royale, etc., et qui se trouvent dans le royaume de France. Bien. Et pendant la Révolution, ces gens-là vont se manifester, et lorsqu'on va abolir l'esclavage, il y aura des fêtes en leur honneur, et on va voir des mères donc qui échangent leur bébé et leur sein et leur lait. Et je veux dire, là, il y a aussi quelque chose de très sympathique, de très chaleureux, de très humain, et qui est une image tout à fait réelle, vécue de cette fraternité de la période, de cette unité du genre humain dont on parlait précédemment. Voilà quelques exemples de la symbolique révolutionnaire dans la période révolutionnaire, qui montre aussi qu'en France, il y a une indifférence à couleur.
Enfin, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que la différence est visible, mais elle n'est pas théorisée.
Voilà, non.
Et puis voilà, c'est tout. Ça me rappelle l'Empire romain, où c'était la même chose. On savait très bien qu'il y avait des différences de couleur, mais on n'en parle même pas, tellement ça n'a pas de rapport quelque part avec l'être humain.
Voilà. Et c'est qui nous indique qu'il y a quelque chose de grave qui va se produire avec l'apparition du racisme. Le racisme n'est pas la même chose que le préjugé de couleur. Je pense qu'il faudrait approfondir cette question. Je vais l'évoquer très rapidement, mais il faut l'approfondir, bien évidemment. Je ne peux pas le faire là aujourd'hui. Simplement, on peut dire que le racisme apparaît lorsque on abolit l'esclavage. Et oui, pourquoi ? Parce que je le vois chez des théoriciens comme Maurice Saint-Méry et d'autres, pas les autres Beauvois, qui sont à Saint-Domingue et qui réfléchissent à cette éventualité. Parce que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a une véritable crise du système colonial européen en général. Hein. Bon, bref, et il y a toute une série de révolutions qui vont se développer en Amérique, dans tous les coins. Et vous allez avoir des indépendances différentes, des indépendances blanches comme aux États-Unis, des indépendances noires comme en Haïti, des indépendances indiennes comme au Paraguay. Bref, il y a beaucoup d'expériences dans cette au tournant du XVIIIe, XIXe siècle. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses très riches. Et la question donc de l'abolition de l'esclavage est apparue à certains colons qui ont compris que c'est un système qui allait sans doute être dépassé. Peut-être pas tout de suite, immédiatement, ils ne s'attendaient pas à ce que les choses soient si rapides, mais enfin bref, ils s'y attendaient. Ils se sont préoccupés, ils se sont posé la question qui les intéresse eux, qui est Mais qui va travailler sur nos plantations, hein, puis c'est ça leur problème principal. Et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils passent du préjugé de couleur au racisme, qui est très différent. Et le racisme sert à quoi faire? S'il y a une abolition de l'esclavage et que la population anciennement esclave se trouve toujours sur place, ce qui est probable, c'est très difficile de circuler, eh bien, il faut qu'elle reste dans une situation subalterne pour être contrainte de continuer de travailler dans des conditions qui ne sont plus celles de l'esclavage, mais qui resteront des conditions de travailleurs à exploiter. Hein. Bon. Et si vous voulez, en gros, je le dis très rapidement, mais c'est ça la différence qu'il y a entre le préjugé de couleur qui concerne des gens de la classe dominante libre et le racisme qui concerne tous les gens de couleur. Qui est tout à fait différent. Et ça, c'est l'héritage du système colonial, quoi. Bien évidemment.
Oui, vous avez lu des textes qui montrent bien qu'il y a un rapport.
Voilà, moi j'ai trouvé ça chez Palizot de Beauvoir, qui, à la même époque que Maurice Saint-Méry, écrit donc vers les années 89, 90, 91, où il écrit qu'on va manquer de main-d'œuvre et qu'il faut absolument y penser, et avant de se trouver d'autres sources de main-d'œuvre autres. Il y avait les coulis qui existaient déjà, si vous voulez. Il y avait des gens qu'on faisait venir d'autres territoires pour les mettre non pas en esclavage, mais dans des formes de salariat, enfin de contrat assez contraignant, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Ben bon, et qui pensent à cela et qui pensent qu'il faut se mettre maintenant à hiérarchiser véritablement les races pour faire sentir qu'on doit... On ne doit pas donner l'égalité en droit, surtout pas. Enfin, je veux dire, l'égalité en droit, c'est quelque chose qui est considéré comme abominable.
Tout à fait. Mais alors, justement, pourtant, l'égalité en droit, elle a été reconnue à un moment, en 1792.
L'égalité en droit entre les libres de couleur et les colons blancs, entre les colons de couleur et les colons blancs, oui. Oui, mais c'était déjà dépassé par rapport à la situation de Saint-Domingue, étant donné qu'il y avait une insurrection des esclaves qui avait commencé et que le problème n'était plus d'unifier la classe dominante.
Oui.
Le problème n'était plus cela.
Donc politiquement, à Saint-Domingue, c'était raté.
C'était complètement raté, c'était dépassé.
Puis, en France, on a tendance à oublier que finalement, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté sur cette belle page d'histoire en 1792.
Ça a quand même continué avec l'abolition de l'esclavage.
Hein,
oui, il ne faut pas l'oublier, oui, ça, c'est important.
Ça, vous avez raison.
C'est intéressant. Il y a une abolition de l'esclavage qui se fait d'abord à Saint-Domingue. Ensuite, la convention Montagnard, qui est très critique du colonialisme. Et ça aussi, si j'avais plus de temps, je pourrais développer pourquoi on peut être anticolonialiste à cette époque-là. Encore la faute au droit naturel moderne de l'école de Salamanque.
Il nous reste 10 minutes. Si vous, 5 minutes sur le droit naturel moderne, si vous voulez. Et après.
Oui. Ah oui.
Allez-y.
Ah bah ça, moi j'y vais, c'est trop intéressant. On a très souvent, on a des craintes, comment dire, une espèce de timidité à parler de l'anticolonialisme à l'époque moderne, comme si c'était quelque chose qui était un fruit du XXe siècle. Eh bien non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, en tout cas moi comme moderniste, je peux en parler pour cette période. C'est encore lié à cette question de la conquête de l'Amérique et de la destruction des Indes. C'est Las Casas, Vitoria, etc., qui, dans l'école de Salamanque, ont non seulement pensé à la nécessité de repenser, parce que ça avait déjà été pensé dans le passé, repenser l'unité du genre humain, mais également reconnaître les droits des peuples à leur territoire, à leur souveraineté et à leur culture. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est né là, qui est noué de nouveau. Hein. Des historiens du droit naturel antique en parleraient de façon aussi très, très intéressante, je pense, pour nous permettre de mieux comprendre les choses. Mais ici, vous avez non seulement les droits de l'humanité, les droits des individus, hein, et les droits des peuples. C'est-à-dire que vous avez une théorie politique qui se met en place et qui dénonce le colonialisme qu'on appelle à l'époque la barbarie européenne. C'est une expression extrêmement intéressante. La barbarie européenne, qui est une prise de conscience qu'il y a des actes qui sont commis par des Européens qui sont inadmissibles, qui sont indignes et que, contre lesquels il faut s'indigner précisément, lutter et répondre. Il faut répondre par une nouvelle théorie politique. Et cette nouvelle théorie politique, elle comporte donc les droits de l'homme, les droits de l'humanité et les droits des gens, le droit des gens, comme on l'appelait
absolument.
À Rome, c'est-à-dire le droit des peuples, et qui prend un sens nouveau ici, quand vous avez Las Casas qui vous dit que les Indiens ont droit à leur territoire, à la souveraineté sur leur territoire, que les Espagnols n'ont pas le droit de les chasser, de leur prendre leur terre, et qu'ils ont également droit à leur culture et à leur religion.
Oui, c'est ça. Voilà,
et quand
c'est...
vous savez que Bartholomé de Las Casas était un prêtre...
Voilà.
Je veux dire, ça vous fait comprendre qu'il y a une prise de conscience qui est extrêmement vigoureuse. Et il est donc facile, à partir du moment où vous avez cet exemple du XVIe siècle de l'école de Salamanque et de ces développements du droit naturel moderne, de comprendre que le droit naturel moderne au XVIIIe siècle, qui est un développement de ce qui s'est passé précédemment, soit capable, en état, de faire la critique du colonialisme. Toutes ces formes que l'on appelait le despotisme, si vous voulez, la liberté dans le droit naturel moderne, elle est définie par opposition à l'esclavage. Et ça, c'est très important. La liberté peut être définie de façon diverse et variée, naturellement, mais ce qui est important ici, c'est que la liberté est définie par rapport à des formes d'oppression. D'oppression, dont l'esclavage. Et il y a eu ce renouvellement au XVIe siècle à cause, précisément, des formes de la conquête européennes qui sont très très particulières, ces formes. Quand vous imaginez que vous avez des pays qui sont, où les gens sont libres dans le domaine ouest européen au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, hein, il n'y a plus de servage en Europe, de l'ouest, naturellement, dans le domaine ouest européen, j'ai bien dit, et que vous avez des gens qui vont partir en Amérique, pourquoi faire ? Pour faire des tas de choses, mais aussi en particulier donc pour y réinventer l'esclavage et le réimplanter, alors qu'on s'en est débarrassé non sans mal, car c'est très difficile de sortir de l'esclavage. Les historiens des sociétés esclavagistes le savent et le disent, c'est très difficile de sortir de l'esclavage, c'est quand même terrifiant.
Absolument, je vous remercie de cette mise au point. Donc, on revient à la fin de cette société des citoyens de couleur. Qu'est-ce qui est... Comment ça s'est terminé ?
Ah, ça s'est pas tout à fait terminé. La société des citoyens de couleur n'a pas du tout fermé ses portes. Elle s'est fondue ensuite dans la révolution de Saint-Domingue, mais elle a continué tant que Julien Raymond était en état de continuer, jusqu'en 1793. Hein, l'abolition de l'esclavage se fait à Saint-Domingue à ce moment-là. Et puis Julien Raymond va être arrêté par les soins du parti colonial qui a réussi à le coincer. Mais il va à ce moment-là publier énormément de textes et se défendre. Et il va être libéré en 1795. À ce moment-là, il va être envoyé à Saint-Domingue comme député et il va rallier Toussaint Louverture. Donc la Société des citoyens de couleur... autour du noyau de Julien Raymond. Bon, c'est jamais simple les choses, mais enfin bon, le noyau, un noyau important autour de lui, a rallié la révolution des esclaves de l'ouverture, qui est en pleine bagarre contre l'occupation anglaise qui essaye d'empêcher à ce moment-là le développement de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, qui n'est pas une chose facile, bien sûr.
Bien sûr, et ça c'est à Saint-Domingue. Et en France, le parti colonial lui reprend
l'avantage. Alors lui, il va reprendre l'avantage après le 9 Thermidor. Oui. Il va, après avoir renversé la Convention montagnarde, dont on dit tant de mal, naturellement. Mais enfin bon, on y reviendra peut-être un jour. Bref, et malheureusement, il va préparer, si vous voulez, ce qui va se passer avec Bonaparte. C'est Bonaparte qui va finalement accepter de lancer une expédition contre la révolution de Saint-Domingue. Il va échouer, heureusement d'ailleurs pour Haïti. Et au bout d'une guerre effroyable, enfin, le détail aussi est intéressant ici, mais enfin bon, on abrégera. Au bout d'une guerre effroyable, de 1802 à 1804, la République haïtienne est sortie indépendante et victorieuse de cette histoire effroyable et effarante. Enfin bon, et qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a véritablement introduit l'unité du genre humain sur le continent américain, même si elle continue d'être refusée par certains pays, ça c'est une autre affaire. Mais ça y est, c'est là, hein, c'est mis à l'ordre du jour d'une histoire humaine.
Oui, et donc finalement, les droits de l'homme, c'est toujours une conquête.
C'est toujours une conquête très difficile, on n'a pas résolu le problème encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on ait tellement avancé. Et je voudrais simplement rappeler que cette histoire de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France est... assez compliqué. Je rappelle simplement quelques dates. 1789, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle est votée, elle apparaît droit naturel moderne, présent, qui fait signe, qui sert de boussole. 1795, elle est renversée. Et elle sera renversée jusqu'en 1946. Ce n'est qu'en 1946 que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 va être réintroduite dans le droit constitutionnel français. Vous voyez, la lutte est longue.
Mmh. Et finalement, elle est récente. Là. Et quand on réalise à peine 50 ans, il faut sans cesse recommencer, sans cesse maintenir. En tout cas, vous nous avez donné une leçon d'histoire politique, d'histoire culturelle aussi, et puis, si vous permettez, de démocratie. C'était le droit naturel, ça c'est encore une autre histoire, il faudra y revenir une autre fois. Donc Florence Gauthier, je vous remercie. Je rappelle que vous avez donc écrit ce livre aux éditions du CNRS, L'aristocratie de l'épiderme, mais comme nos auditeurs ont pu s'en rendre compte, vous avez l'art de raconter des choses extrêmement précises, extrêmement savantes, avec beaucoup de verve. Donc surtout, c'est un conseil aux éditeurs, n'hésitez pas, ne fuyez pas devant les éditeurs. CNRS, ça fait très savant, mais on peut être savant et faire partager son savoir. Et puis évidemment, si vous allez sur Internet, sur Google, je crois qu'on peut trouver aussi le texte de certaines de vos conférences, je ne sais plus, que vous avez voulu mettre en ligne, me semble-t-il.
Oui, j'ai un site Internet.
Vous avez un site Internet. Donc Florence Gauthier, G-A-U-T-H-I-E. Voilà.
Et... révolution-française.net.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Je remercie Vincent Jacquin à la technique et nous allons nous quitter.